Alors, deux lectures. Psaume 68, verset 6. Première lecture. Alors, je prends dans la version Darby. Dieu fait habiter en famille ceux qui étaient seuls. Il fait sortir ceux qui étaient enchaînés pour qu'ils jouissent de l'abondance, mais les rebelles demeurent dans une terre aride. Donc Dieu fait habiter en famille ceux qui étaient seuls. Éphésiens 2, 19, on l'a lu tout à l'heure. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Famille de Dieu. Alors, question préalable, deux questions. Qu'est-ce que ça veut dire être seul? Et qu'est-ce que ça veut dire habiter en famille? J'aimerais proposer une définition. Peut-être tout le monde dit, mais c'est évident. Peut-être pas si évident que ça. Chut. Au niveau habiter en famille, posez-nous deux questions pour voir si on habite en famille. Deux questions. Quels sont mes parents spirituels? Quels sont mes enfants spirituels? Et quels sont mes frères et sœurs que tu m'as donnés, hein? Oui, donc ça fait trois questions. Mais disons, est-ce que je peux dire qui sont mes pères, mes parents? Est-ce que je peux dire qui sont mes fils? Vivre en famille, c'est pouvoir répondre à ces questions, entre autres. Et l'Église de Dieu est une Église, tout à l'heure on a entendu Franck dans la prophétie, qui parlait de Dieu qui enfantait des fils et des filles. Eh bien, une Église, une famille, enfante des fils et des filles. Et la notion de paternité et de filiation est au cœur du projet de Dieu. Vous savez, dans Genèse 4, le Caïn, l'Éternel dit à Caïn, « Où est Abel ton frère ?» Et Caïn qui dit, « Moi, je ne sais pas où il est. Suis-je moi le gardien de mon frère ?» Eh bien oui, on est le gardien de nos frères et sœurs. Et l'esprit de famille est une des choses les plus fondamentales dans les Écritures. Alors, une vision pour le relais des générations. Et psaume 78, on le connaît ce psaume, on l'a. Mais en tant qu'Église, vraiment, reprenons-le. Versets 5 et 6. Il a établi, Dieu, un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle soit connue à la génération future, des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Alors, ce commandement-là, combien de générations si on compte? Combien on en compte là? Vous avez combien de générations dans ce texte, bravo, si on compte bien? Comment vous en voyez? Quatre. Hein? Quatre générations. Alors, on parle d'un Dieu qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, mais cette notion de filiation est déterminante. Et rappelez-vous, il y a des passages dans les Écritures parfois qu'on saute comme ça, parce que c'est un peu rasoir, quoi. C'est un peu, ça répète, quoi. Et c'est par exemple dans Luc 3. Luc 3. Alors, quand on lit les évangiles, on prend Luc 1, Luc 2, tout d'un coup, on arrive à la fin de Luc 3, hop, on saute. Pourquoi on saute? Écoutez ça. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Matathias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils d'Esli, fils de Nagai, fils de Matt, fils de Zorobabel, pardon, fils de Salatiel, fils de Néri. Et on continue, vous arrivez. Alors, en général, on décroche, hein, et du coup, on loupe le verset 38. Fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Fils d'Adam, fils de Dieu. L'identité de fils et de fille, elle est dès le début de la Genèse. Adam était un fils de Dieu. Il était considéré comme ça. Dans le jardin d'Éden, c'était un fils. La dimension familiale démarre dès le départ. En fait, ces généalogies nous montrent l'importance de la filiation. C'est pas, Jésus n'est pas comme ça, envoyé de Dieu, directement, comme un martien du ciel, sur la terre. Dieu aurait pu faire ça. Il aurait pu envoyer comme ça, paf. Mais Dieu a voulu que Jésus soit le fruit d'une transmission et d'une généalogie. Et ça, ça nous montre quelque chose du cœur de Dieu. Et son cœur, c'est un cœur qui transmet de génération en génération. C'est un cœur intergénérationnel. C'est un cœur qui, quand il fait un projet, il voit rarement une seule génération. Il voit plusieurs générations ensemble. C'est pourquoi le fardeau que nous avons, j'aimerais parler aux jeunes ici, en tant qu'Église, c'est né d'une vision. Des gens ont travaillé. Je me rappelle, par exemple, tout à l'heure, en venant au culte, je me rappelais de la famille Beck, il y a 25 ans, aux hommes d'affaires du plein évangile, jeune couple, tout frais, Dieu. Et puis je dis, 25 ans après, ils sont là encore. Et je regardais le chemin, je dis, quel chemin, mais quel travail aussi, que d'investissement, que d'engagement. Et vous les jeunes qui êtes là, attention, il y a une génération avant vous qui a fait une percée. Mais cette percée, Dieu veut la prolonger. Et on ne pourra pas la prolonger si vous-même, vous ne prenez pas le relais, pas seulement le relais, mais courir avec nous. Et nous ne pourrons pas rentrer dans le plein héritage que Dieu a avec nous s'il n'y a pas la génération des Isaac. Et je sais qu'elle est en train de se lever, mais elle est là déjà, mais en plus encore. Et en plus, il faut la génération aussi des Jacob. Donc un essai de définition de la famille, du relais comme ça, du transfert de génération, c'est une vision pour que la voix de Dieu soit donnée pour la vie, pour la vérité, qu'elle soit communiquée, en fait que Dieu lui-même soit communiqué génération après génération. Il se passe beaucoup le phénomène suivant, même dans le monde évangélique, c'est qu'il y a une rupture de génération. Hein, très souvent. Et parfois dans les meilleures églises, il y a des générations qui lâchent. Par exemple, en France, la génération des 30 à 45, tout ça, il y a un creux comme ça. On ne sait pas pourquoi. Il y a un creux. Et il y a des choses comme ça. Et Dieu dit, attention, je suis le Dieu des générations. Regardez dans Josué 1, lorsqu'il est dit « Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi ». Alors, il ne faut pas attendre que la première génération meure pour se lever, hein, sinon on n'a pas fini, quoi. On va toujours recommencer à zéro. Et voilà, donc on est bien vivant, nous, la génération des Abraham. Bon, je vais un peu vite là, mais hein, les Abraham qui sont là. D'ailleurs, j'aimerais faire un sondage. Les Abraham, ce n'est pas seulement les vieux, c'est ceux qui n'ont pas, dont les parents n'étaient pas chrétiens, nés de nouveau. Levez la main ici, la génération des Abraham, moi j'en suis un. Voilà, ceux qui, voilà. Donc on n'avait pas nos papas et nos mamans pour dire voilà le chemin. Ok, on est pas mal quand même. Hein. Maintenant les Jacob, les parents étaient chrétiens. Ah, il y en a quand même aussi des Jacob, ok. On va faire, et les Isaac alors. Est-ce qu'il y a des Isaac? Trois générations. Vos grands-parents étaient chrétiens. Oh, Franck aussi. Denis, Lydie, waouh. Il y a les tout-petits qui sont là, bien sûr. Ben Clément, ben oui, bien sûr. Adriel, etc. Donc, vous voyez, il y a vraiment, on a l'ensemble qui est là. Et vous savez que dans Canaan, une des idoles principales, c'était Moloch. Et on devait, pour adorer cette idole, sacrifier les enfants. Et donc, aujourd'hui, le sacrifice d'enfants, c'est tout ce qui empêche la transmission. Et ça, c'est la transmission, ça veut dire du temps. La transmission, c'est aussi de l'argent. La transmission, c'est de la vision. La transmission, c'est tout ça. Et tout ça, il y en a un qui veut pas. Et les générations à venir, elles font face aux questions dans quelle direction je dois prendre et par quelle autorité j'agis. Alors le Seigneur nous montre des chemins anciens. Hein. On est tenté en tant qu'Église, parfois, on peut être tenté par la modernité, et c'est bien, on veut s'adapter au monde moderne, il y a des nouvelles voies, mais il y a aussi des chemins anciens, Genèse 17, regardez ça, ça c'est le cœur de Dieu encore, Genèse 17, « Voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude. » Regardez, « Voici mon alliance, tu deviendras père. » C'est incroyable. Père, quand on dit père, c'est la maternité aussi, il y a dedans. Mais l'alliance de Dieu, c'est une affaire de famille. D'accord ? C'est pas une affaire moi avec Dieu. Seulement, Dieu, quand il te regarde, il voit une famille. Quand il te regarde, il voit ta famille charnelle, hein, mais il voit aussi ta famille spirituelle. Dieu est un Dieu de famille. Donc, voici l'alliance, tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême, je ferai de toi des nations, des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, des descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Donc voyez, les pères donnent leur cœur et si les fils ne sont pas prêts à recevoir, eh bien ça va être très délicat. On peut être prêt à donner, mais il y a parfois des gens qui ne sont pas prêts à recevoir. Et parfois, le brisement des générations, ce n'était pas les Abraham le problème, mais les Isaac qui disent « moi, j'en veux pas de ton truc. Moi, j'en veux pas, c'est ringard. C'est ringard. D'accord ? Moi, j'en veux pas, moi, je veux voir autre chose. » Donc attention, il faut savoir recevoir des pères. Dieu nous dit, même aux plus petits d'entre nous, « je veux que tu sois père. » Ceux qui ont là 10, 11 ans, 12 ans, dans 10 ans, 15 ans, vous serez probablement père et mère. D'accord ? Même avant, j'espère pour vous, avec un bon mariage, avec quelque chose de chouette. Mais Dieu déjà, mettez-vous dans... Peut-être vous dites c'est loin, mais non, non, non. La vocation de Dieu, c'est la multiplication et c'est la paternité. Mais si tu n'apprends pas à recevoir aujourd'hui de père et de mère, ça va être très difficile à devenir un père et une mère. En fait, c'est quoi un père ? Et je l'ai souvent dit aux enseignants, mais j'aimerais donner la définition d'un père et d'une mère. Un père... c'est un fils qui fait office de père. D'accord ? Pour être père, il faut d'abord être fils. Donc un fils, il reconnaît ses parents. Un fils reconnaît son père et sa mère. Un fils reçoit de son père et sa mère. Et c'est pour ça qu'il y a telles attaques parfois dans les familles, surtout au niveau des pères et des enfants. Jean-Daniel qui revient du Honduras, il me dit, c'est incroyable là-bas, les églises, les pères, ils s'en vont des foyers. C'est des femmes, la plupart du temps, des femmes toutes seules, laissées par les maris. C'est incroyable. Et ça, c'est assez mondial. Donc les pères, ils aiment prendre la tangente. Parce que quand un père prend la tangente, il n'y a pas d'héritage. D'accord ? Donc l'ennemi, il sait que l'héritage est grand. C'est le pays, c'est la France, c'est les nations. Donc si on enlève la notion de paternité, on enlève l'héritage. Dieu est un Dieu d'alliance qui nous parle de père et qui nous dit « j'établis mon alliance, moi et toi et les descendants après toi ». Voilà. Donc, notre culture ne nous aide pas à ça. Prenez la culture française. Liberté, égalité, égalité. Donc, on est tous au même niveau. Alors, égalité, oui, devant la loi. Mais on a une drôle de pensée. On pense que l'égalité, c'est l'égalité de tout, quoi. C'est faux. Devant la loi, oui, mais le reste, on n'est pas égaux. On n'a pas les mêmes talents. On n'a pas les mêmes mesures d'autorité, de grâce. Chacun a des couleurs différentes. Il n'y a pas d'égalité. Ça n'existe pas. Devant la loi, oui, mais sinon, il n'y a aucune égalité. Et puis, la fraternité. Merci Seigneur pour la fraternité. Mais s'il n'y a pas la paternité, vous pouvez toujours courir pour la fraternité. D'accord ? Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui est en rupture avec son père, que ce soit dans le ciel ou sur terre, il est en rupture de relation avec tous les autres. Et on s'étonne après, ça va de cassure en cassure. La façon de parler sur son frère et sur sa sœur, c'est toujours le fruit de comment on parle de son père et de sa mère. C'est très très souvent ça. Donc Dieu dit, voilà, il y a les chemins anciens, c'est le chemin de l'alliance, c'est le chemin de la relation, et on veut valoriser les chemins de la paternité, de la maternité. On veut aussi des frères, parfois on ne veut pas de maîtres, surtout en France. Hein. Et Jésus, tout ça, il veut bousculer tout ça. Et dans son Église, il veut redonner la notion de l'importance de la transmission générationnelle, l'importance de la filiation. La Bible dit, elle parle de l'esprit d'Élie. Hein, et l'esprit d'Élie, c'est quelqu'un, c'est pas... Élisée qui était là, donne-moi la mesure de ton esprit, Élie. Il n'a pas dit, donne-moi l'esprit de Dieu. Il a dit, donne-moi ton esprit, l'esprit d'Élie. D'accord ? Donc l'esprit d'Élie était rempli de l'esprit de Dieu, mais c'était l'esprit d'Élie, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Il a reconnu un père, il a reconnu une onction, il a reconnu, il a marché dans une filiation, et il a reçu, la Bible dit dans 1 Corinthiens 4, 7, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu ? » On reçoit par transmission. On reçoit par transmission. Luc 1, 17, « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Ça, c'est la puissance d'Élie. Marcher devant Dieu dans la puissance d'Élie, c'est ça. Alors vous allez me dire, est-ce que ce n'est pas les miracles, les prodiges d'Élie, la puissance d'Élie ? La plus grande puissance d'Élie, c'est d'avoir eu un Élysée. Et Dieu nous dit, dans les derniers temps, je redonne mon esprit dans la puissance d'Élie. Et ça, c'est, nous sommes dans ces temps-là. Pourquoi faut-il que ce soit l'esprit d'Élie qui doit venir, comme ça, hein, dans la prophétie de Malachie ? L'esprit d'Élie, c'est un esprit d'un père qui recherche des cœurs de fils dans lesquels il pourra se donner. Voilà. Dieu regarde dans son Église des cœurs dans lesquels il pourra déverser son amour de Père. Ce matin, Dieu a parlé et il a dit « Je veux déverser mon amour de Père ». Et ça, c'est pas rien, ça. Et je me dis, avec ce message, je dis, c'est incroyable, là. Dieu a balisé, mais encore faut-il qu'on le reçoive. On peut très bien être assis, dire « Bon, encore une prophétie, tiens, c'est encore Francky qui parle, bon, on connaît. » Du coup, on ne reçoit pas. Et on peut mépriser la parole de Dieu. Voilà. Mais Dieu dit, voilà, je veux te donner mon amour. C'est une parole sérieuse. Prends. C'est pour toi. Tu n'as pas à vivre dans la solitude, la souffrance, etc. Alors, regardez dans l'esprit de paternité. Donc, un cœur qui recherche des fils. Et puis, c'est un cœur qui bâtit de façon... générationnel, c'est-à-dire il va voir une mission de Dieu comme pouvant être accomplie avec plusieurs générations en même temps. Le commandement de Genèse 18 à Abraham, écoutez, c'est vraiment un commandement. Je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel. C'est incroyable. Dieu nous dit, il nous choisit, d'accord, mais dans toutes les Écritures, pourquoi Dieu nous choisit ? Une des plus grandes missions, c'est pour qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Ça veut dire quoi ? Souvent, nous, on relie Abraham égale promesse. Non, non. Abraham, commandement, tu transmets accomplissement des promesses. Donc, entre Abraham et les promesses, il y a la transmission. Et si on loupe cette étape, tu peux mourir avec les promesses qui attendent toujours. Donc, l'ordonnance de transmettre à la génération d'après, c'est pour l'accomplissement des promesses. Dieu s'identifie toujours comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il aurait pu dire « Je suis le Dieu saint ». Il aurait pu dire « Je suis le Dieu… » Vous voyez ? Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'attributs à Dieu, mais quand même, il aime se présenter comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et très souvent, je me rappelle, jeune chrétien, j'entendais ces prières, je ne dis pas dans quel milieu vous aimeriez peut-être reconnaître, j'entends « Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob !» Puis alors, ça commençait là, ça moussait là. Et puis c'était toujours pareil. Mais y avait, c'était comme un Dieu lointain. Cette façon de prier, c'était comme pour dire « C'est vraiment le Dieu d'il y a très longtemps !» voyez. Et puis moi, j'étais jeune chrétien, je dis « Waouh, c'est quand même incroyable !» Et maintenant, je me rends compte que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est le Dieu, c'est la paternité de Dieu qui est là, qui est d'une proximité phénoménale. Donc la nature du cœur de Dieu, c'est un cœur qui transmet. Dans Proverbe 23, c'est extraordinaire, vous avez le Père qui parle. Il dit souvent « mon fils ». Alors ma fille aussi, les filles, vous ne vous sentez pas à côté, c'est pareil. Et il dit quoi, le papa ? Qu'est-ce qu'il lui dit ? Donne-moi ton cœur. Et dans les proverbes, vous savez, il ne s'agit pas, c'est pas en premier la figure de Dieu qui parle, bien sûr, Mais dans les proverbes, il s'agit d'un maître avec ses étudiants. Donne-moi ton cœur. C'est bizarre. Imagine, tu arrives à l'école, tu t'assois sur les bancs d'école, et le maître dit, donne-moi ton cœur. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est quoi ce truc? Tu vas te mettre, tu vas pas avoir peur. Hein, mais c'est pour ça, Dieu dit, c'est comme ça qu'on transmet. Et donc dans l'Église, dans son Église, Dieu veut qu'on se donne le cœur, notre cœur les uns aux autres. Donner son cœur. Et de cette façon, on reçoit. Les pères et les mères sont pas disposés, s'ils sont pas disposés à donner leur cœur, leurs fils, leurs filles, etc. Et si les fils et les filles ne sont pas disposés à recevoir, eh bien le processus de la promesse sera en arrêt, quoi. En arrêt. Ésaïe 53:6, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Ça veut dire, pas de père, pas de mère, je fais ce que je veux. Et alors les plus malins, ils vont dire, moi, je fais ce que Dieu me dit. Mais alors, dès qu'il y a le conseil du père ou d'une mère, on n'en veut pas. Pourquoi? Parce qu'on était profondément blessé par des abus, des contrôles, etc. Mais là, tant que Dieu nous dit, tes blessures, tu les regardes en face et tu te laisses guérir par Dieu. Mince alors. C'est trop souvent, dans la vie chrétienne, on est là et on commence à marcher, paf, une blessure, un bobo. Et au lieu de dire, Seigneur, guéris-moi, je libère le pardon, on reste avec notre bobo, on le garde bien et on ne lâche pas. Et puis du coup, ça, on s'est arrêté sur le chemin. Donc Dieu dit, avec tes blessures, tu me les donnes, laisse-toi guérir pour devenir un père. Donc voilà, ça c'est vraiment, ça me paraît vraiment important. Chacun suivait sa propre voie. Parfois c'est sous le couvert du charismatisme ou de Dieu ou du spiritualisme, mais Dieu agit toujours et directement, bien sûr, parce qu'aucun père ne remplace Dieu le Père, mais en même temps, cette notion de paternité est vraiment importante. Il faut reconnaître nos pères. Moi, je me rappelle le premier geste que Dieu m'a... Jeune converti, hein, j'avais mes cheveux longs, mes joints, tout ça. Hop, Dieu, il me touche par son amour. La première chose qu'il m'a demandé, la toute première, c'est « Dis pardon à ton père. » Parce que j'avais piqué de l'argent dans le porte-monnaie. C'était longtemps, quand j'étais gamin. 10 ans après, Dieu dit... La première chose, va demander pardon. Demande pardon. C'était avec le Père. Et après, je me suis dit, comment ça se fait? Il y a des choses plus graves quand même que j'avais faites dans ma vie, mais pourquoi ce truc-là? Et bien parce que la relation avec son Père est déterminante pour tout le reste. Pour tout le reste. Et c'est comme ça qu'ensuite, on peut devenir un Père soi-même. Quand on a pu laver, guérir cette relation-là. Et parfois, il y a des pères qui ne veulent pas, mais notre affaire à nous, c'est de faire notre part par rapport à ça. Donc donne-moi ton cœur. On ne veut pas suivre chacun nos propres voies. On ne veut pas suivre nos propres voies. On a besoin de la voix du Père qui peut parler aussi les uns par les autres. Le ministère de la double portion, donc Élie et Élisée. Élie a donné son cœur. Élisée a eu ce fils et il a eu cette double portion. Et il a reçu le cœur d'un homme. L'esprit d'un homme, voyez, il a demandé l'esprit d'Élie, donc je reviens là-dessus. Josué, qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté le cœur de Moïse. Ce n'était pas seulement Dieu directement, mais il a reçu de Moïse, il a reçu de lui, il était imbibé de lui. Vous avez par exemple David et Jonathan, un même cœur. Paul, Timothée, un même cœur. Donc toutes ces transmissions ont donné vraiment de la puissance et ont permis d'accomplir les promesses. La filiation va toujours avec l'héritage. Regardez, on prend deux passages des Écritures, et on pourrait même en prendre plus, mais regardez, Romains 8, versets 14-17. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être de nouveau dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors regardez maintenant tout de suite. Donc ça, c'est la filiation. Je suis enfant de Dieu. Qu'est-ce qui vient après? Si nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Donc l'héritage, ça va toujours avec la notion de fils et de fille. Si tu ne te sens pas fils de Dieu, ce n'est pas possible de rentrer dans l'héritage. Si tu ne reconnais pas père et mère sur cette terre, c'est très difficile de rentrer dans l'héritage. D'accord ? Dieu travaille avec une patte humaine. Dieu n'est pas désincarné. Nous sommes le corps de Christ, par exemple. Il n'est pas désincarné. Et Dieu travaille avec l'humain. Travaille avec l'humain. Attention à tout ce qui est mysticisme. On est qu'avec Dieu. Mais Dieu, imaginez Élisée, il aurait dit, moi je ne reçois que de Dieu. Ça aurait été difficile. Il n'aurait jamais eu cette double portion. Mais il a tenu, il a dit, moi je ne te lâche pas. Et choisir, et je parle aux jeunes ici, choisissez vos grands frères. Choisissez vos modèles. Et puis vous ne les lâchez pas. Et vous accrochez jusqu'à ce que vous ayez reçu tout ce qu'ils ont à vous donner. C'est comme ça qu'on avance. Regardez Galates 4, versets 1 à 7. C'est un peu la même chose. Je dis aussi qu'aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit seigneur de tout. Mais il est sous des tuteurs, des curateurs, jusqu'à l'époque fixée par le Père. Ainsi, nous, lorsque nous étions en bas âge, nous étions asservis aux éléments de ce monde. Mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, criant « Abba, Père », de sorte que tu n'es plus esclave, mais fils. Regardez ce qui vient après. Et si tu es fils, tu es héritier. Donc le problème, c'est que Dieu a donné l'héritage du monde à son Église. C'est l'héritage d'Abraham. Et en brisant l'ennemi qui brise la notion de filiation, de paternité, tout ça, il fait en sorte que l'Église, bien sûr, elle est sauvée. On est sauvé, on est aimé de Dieu, on est content, mais on ne rentre pas dans l'héritage parce qu'on ne se sent pas fils et fille, etc. Donc vous voyez, c'est des passages très importants. Un dernier. Deutéronome 6, versets 4 à 12, pour vraiment, vous voyez, c'est dans toutes les Écritures cela. Regardez, transmission, héritage, transmission, Deutéronome 6, 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ces paroles que je te commande aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils. Tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu marcheras par le chemin, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main. Elles seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, sur tes portes. Ça, c'est transmission. Verset 10. Et il arrivera quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura introduit dans le pays qu'il a juré à tes pères. Donc déjà, on a déjà l'aspect relationnel ici, générationnel. Abraham, Isaac et Jacob de te donner de grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties et des maisons pleines de tout bien que tu n'as pas remplies et des puits creusés que tu n'as pas creusés, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés et tu mangeras et tu seras rassasié. Alors prends garde à toi, de peur que tu n'oublies l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Transmission, filiation, héritage. Toujours pareil. Et donc, un des buts de Dieu dans ces valeurs de la filiation, c'est le plein héritage. C'est le plein héritage. Nous avons un héritage en tant qu'Église locale et cet héritage, on veut pleinement y rentrer. Et nous y rentrons alors que nous faisons tous nos efforts aussi par rapport à la notion de transmission. Je parle aussi ici au niveau des leaders de groupes de jeunes, des moniteurs d'ateliers bibliques, etc. C'est postes clés, je dirais, qui demandent des efforts, qui demandent de l'investissement. Si vous grandissez dans ces domaines-là, vous allez libérer l'esprit du Père, l'esprit de Dieu. Ça fera de toi un père, mais tu vas libérer la possibilité de rentrer dans l'héritage. Et l'héritage, vous voyez, c'est ça. Donc nous, parfois, on a l'impression qu'il y a d'énormes efforts à faire, des choses à bâtir, etc. Mais en même temps, Dieu dit, moi, j'ai une provision pour toi. Elle est toute prête, mais voilà, je te demande de transmettre afin qu'on n'oublie pas. Afin qu'on n'oublie pas. Une génération qui oublie d'où elle vient, un homme même, qui oublie d'où il vient, c'est-à-dire qui n'honore plus ses parents, qui oublie d'où il vient. C'est ça aussi, c'est pas ça. Eh bien, c'est un homme qui a du mal à rentrer dans son plein héritage. Donc, plus Dieu nous guérit dans nos racines charnelles de nos familles, plus il nous élargit la portion de l'héritage. Voyez, donc Dieu est un Dieu générationnel qui a choisi de passer les uns par les autres. 2 Corinthiens 8:5, il y a un principe, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Se donner à Dieu, d'abord, mais la conséquence, ça sera quoi? Ça sera se donner les uns aux autres. Voyez? Se donner à Dieu, c'est se donner les uns aux autres. Et voilà le principe de la famille. 1 Jean 1, 2, 3, on voit l'illustration de ce principe. Il est dit, la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle. Vous voyez, je vis la vie éternelle, j'ai vu quelque chose de Dieu, c'est comme Ésaïe, j'ai vu le Seigneur. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Transmission. Et nous vous annonçons. Donc, plus il y a une vision de Dieu, plus il y a une transmission, une annonce. 1 Corinthiens 4, 17, après avoir fait la description de l'état peu-reluisant de l'église de Corinthe, hein, il donne une solution. C'est pourquoi je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé, qui est fidèle dans le Seigneur. Il fera souvenir de mes voies en Christ que j'enseigne, etc. Donc, soyez mes imitateurs ensuite. Voilà l'esprit. Et moi, je trouve que ce beau passage, quand Élisée là est là et que le manteau d'Élie tombe, et quand il crie « mon père », hein, c'est incroyable ça, cette relation qu'ils avaient. Et je rappelle aussi sur le pèlerinage qu'il faut faire parfois en tant qu'église, si vous n'avez pas quoi faire les dimanches, un jour il faut faire un tour au musée Oberlin, à 1h30 d'ici, et puis sur la tombe d'Oberlin, vous avez ce truc qui me rappelle toujours cette dimension de la paternité, il y a marqué « papa Oberlin ». Donc Dieu veut lever des pères, des mères, et cela, c'est pour la transmission, et cela, c'est pour l'héritage. Le plus grand miracle d'Élie, 14 miracles il a fait, hein. Élisée en a fait 28, le double, pile le double. Quand il a dit la double portion, c'est vraiment impressionnant, on voit vraiment le double. Mais les deux, ils ont séparé des eaux, 2 Rois 2:8, les deux, ils ont amené de l'eau en période de sécheresse, les deux ont fourni une veuve en huile, en nourriture, les deux ont appelé à la vengeance sur les ennemis, les deux ont ressuscité un mort, et le plus grand miracle d'Élie, je pense vraiment, l'esprit d'Élie, ça a été cette transmission. Malheureusement, on ne voit pas la même chose après, au niveau Élisée et suivant. C'est pareil avec David et Salomon, il y a une belle transmission, et ensuite, il n'y a plus, il y a un arrêt. C'est comme s'il y a vraiment une bataille pour qu'il y ait vraiment une transmission sur plusieurs générations. Ce n'est pas facile. Je prends la génération de la réforme, 16e siècle. Transmission, 2e génération qui marche dans les voies de Dieu. La 3e qui manque. Persécution ou autre. Mais il y a du mal à garder le potentiel et l'héritage. Vous voyez ? Alors, vous connaissez ce passage où Élisée se met sur l'enfant, hein. C'est une des visions clés pour ma vie, pour le ministère d'éducation, mais c'est pour l'Église aussi. L'esprit d'Élie, c'est ça, c'est se mettre sur une génération, coucher sur elle, c'est donner notre vie, donner notre cœur, et puis le bouche à bouche, c'est la parole de Dieu. Donc quand il y a une parole prophétique, c'est la bouche de Dieu, notre bouche est faite pour donner la parole de Dieu. D'accord ? La parole de Dieu. Récemment, il y a un tout jeune homme qui me disait, cette semaine, il me disait, mais vraiment, Dieu m'a parlé par l'épître de Jacques. Et il a dit, avant, je ne faisais pas attention à ce que je disais, mais maintenant, j'ai compris que la langue est un gouvernail pour toute ma vie. Donc, je vais faire attention à ce que je dis sur moi-même, sur les autres. Pourtant, ce n'était pas faute d'avoir dit ces choses, hein, mais il a fallu que Dieu lui dise à lui. Et du coup, une révélation dans toutes les Écritures, dans les Proverbes, ça a été ça. Et sa vie l'aligne avec cette révélation qu'il a reçue. Je suis convaincu qu'il en aura d'autres quand on s'aligne à la révélation qu'on a. Alors voilà, être d'abord d'accord pour être des donneurs, et puis Élisée était d'accord pour être un receveur. L'esprit d'Élie, c'est un cœur donné. L'esprit d'Élisée, c'est un cœur ouvert. Alors, souvent, l'Église a perdu la puissance de l'annonce. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez Zacharie. On lui dit, voilà, Jean, il va marcher dans l'esprit d'Élie, la parole de Gabriel, hein, qui dit, voilà, tu vas avoir un fils, c'est Jean. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas cru. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est devenu aphone. Il n'a pas pu parler pendant plusieurs jours. Il n'y a plus d'annonce, parce qu'il n'a pas cru. voyez. Et donc, il y a un silence qui peut venir, je pense du silence prophétique, silence tout ça, quand on ne croit pas à ce que Dieu dit. Et Dieu dit, voilà, je fais revenir l'esprit d'Élie. Dans les derniers temps, Malachie chapitre 4, je vais relever l'esprit d'Élie, et c'est cet esprit-là. Donc en tant qu'Église, nous voulons pleinement adopter, recevoir cet esprit d'Élie qui était sur Jean-Baptiste et qui est sur eux, que Dieu veut libérer pleinement. Voilà, donc je termine. Le royaume de Dieu promeut une autre fierté que des réussites matérielles ou autres. Le royaume de Dieu promet une fierté, c'est la fierté de la transmission et de la succession. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'être père charnel. Je disais, on peut être sans enfant, on peut être seul et être plein de fruits, avec plein de fils et plein de filles. Voyez. Alors, je conclue, je relis Luc 1, 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit dans la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé, c'est-à-dire des cœurs tournés vers Dieu. Et le dernier passage que j'avais à cœur de vous lire, c'est le cœur de David par rapport à Salomon, dans 1 Chronique 22, « Maintenant mon fils hein. ». Donc David avait vraiment ce cœur d'adorateur, mais ce cœur de père aussi. On voit souvent David comme un cœur d'adorateur, mais c'est vraiment un cœur de papa. Voilà, mon fils, que l'Éternel soit avec toi. Je crois que c'est le cœur de nous tous ici, que l'Éternel soit avec toi. Afin que tu prospères, que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. Pourquoi il prie pour la prospérité? C'est quoi le but de la prospérité? Eh bien, c'est la maison de Dieu. David avait un amour pour la maison de Dieu. Vraiment. Son rêve, ça aurait été de bâtir cette maison. Mais Dieu lui a dit, c'est Salomon qui va le faire. Parfois, on a des rêves, nous. Et j'aimerais dire aux jeunes, les rêves que plusieurs d'entre nous en a, peut-être que c'est vous qui allez les accomplir. Mais si vous ne les recevez pas, comment voulez-vous les accomplir? Donc, recevez, questionnez vos pères. Quel est ton rêve? Quelle est la vision de Dieu pour être comme Salomon avoir reçu. Et quand Dieu a dit à David, tu ne vas pas bâtir le temple, tu as du sang sur les mains, David ne s'est pas découragé. Mais le sens de sa vie, c'était de faire des préparatifs. Mais j'aimerais dire que le sens de notre travail ici, de notre mission, c'est faire des préparatifs. Quand je vois l'énorme investissement, que ce soit au niveau pratique, au niveau travaux, au niveau financier, tout ça. Le but, ce n'est pas d'une belle maison. Le but, c'est la maison de Dieu. Le but, c'est le royaume de Dieu. Mais ça donne un sens à tout ce qu'on fait. Et David a travaillé pour récolter de l'argent pour la maison de l'Éternel, des talents, des reins, du fer, en abondance. Il a préparé du bois, des pierres, de tout ça. Ça, c'est dans les versets 14, 15. Et tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs de pierre, des charpentiers, des hommes habiles. Il les avait déjà préparés, tous ces gens. Et Salomon n'avait qu'à arriver. Tout était prêt, tout était là, parce que la génération d'avant avait préparé. Voyez ? Donc, voilà le but. C'est bâtir. Et Salomon, c'est l'image du Christ revenant, ressuscité, glorieux, avec la gloire de Salomon, qui est une image très faible, mais de ce que sera la gloire à venir. Et Dieu nous dit dans Matthieu 28, Jésus s'est approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, fait de toutes les nations des disciples, et baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous, je suis avec vous. Et la prière de David, c'était à Salomon, voilà, lève-toi, agis, l'Éternel est avec toi. Nous sommes les valeurs de la filiation, de la transmission, c'est parce qu'il y a un héritage. Et nous sommes redevables à Dieu de cet héritage qu'il nous confie. Voilà simplement ce que j'avais à vous partager. Je pense que les temps prophétiques de ce matin allaient vraiment dans ce sens-là. Nous voulons être une église famille qui honorons les pères et les mères et qui transmettons le cœur de père et de mère. Ça, c'est vraiment le cœur de Dieu. Seigneur, merci pour l'héritage, mais merci surtout pour ton cœur de père envers nous, qui nous donne la capacité d'être à notre tour ses pères et ses mères. Seigneur, je te prie pour une transmission, je te prie pour ce qui se passera cette année aux ateliers bibliques, dans les différents groupes de jeunes, pré-ados, ados. Je te prie pour le phénomène de transmission, Seigneur, qu'il y a vraiment la transmission du Christ tout entier qui puisse s'opérer au milieu de nous, que les rouages entre les générations fonctionnent, Seigneur. Je te prie que nous puissions marcher d'un seul pas, tous ensemble. Et je crois que l'alignement avec le ciel, c'est l'alignement avec le cœur de Dieu, qui est un cœur de Père. Je te prie pour les célibataires au milieu de nous. Merci parce que tu leur donnes ce cœur aussi pour avoir beaucoup de fils et de filles dans le royaume de Dieu. Seigneur, merci pour les fruits. Tu dis, multipliez-vous, fructifiez. Nous croyons qu'il y a beaucoup, Seigneur, devant nous dans cette multiplication et ces fruits. Merci pour l'esprit d'Élie que nous recevons, qui ramène le cœur des fils vers les pères et le cœur des pères vers les fils. Dans le nom de Jésus, Père. Merci Seigneur. Alléluia. Amen.